Alors, on danse, oui, en lien avec ma prochaine entrevue, la vie au temps de la COVID-19, récit vécu en CHSLD. Imaginez-vous donc que dans une des histoires, la chanson de Stromae est évoquée. Et en studio avec moi, j'ai le bonheur d'accueillir André Méthotte, qui est responsable du service des loisirs pour 17 CHSLD du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour André.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Fait plaisir. Et puis Annie Tremblay, long parcours, employée du CIUS, qui travaillait au service de l'enseignement et des stages avant la pandémie, qui a été affectée au service des loisirs. Et Annie, vous êtes titulaire d'une maîtrise en criminologie. Vous avez d'ailleurs donné pas mal de formations pendant une bonne partie de votre carrière. Bonjour Annie.
Bonjour.
Alors, ça me fait du bien de vous recevoir en studio. Hein. En temps de COVID-19, on ne pouvait pas le faire malgré que là, oui, on parle de 7e vague et de hausse de cas. On reste quand même à bonne distance. Et vous êtes avec nous donc pour nous parler de ce fabuleux projet. Mais d'abord, on va faire connaissance avec vous. Là, j'ai quand même du temps. André, qu'est-ce qui vous a amené vers le service des loisirs?
Dans le fond, c'est un secteur, je dirais, qui m'a choisi. Dans le fond, j'ai fait mes études en loisirs, donc je suis récréologue de formation. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le tourisme d'aventure. C'était vraiment un secteur qui m'interpellait beaucoup. Peu de contrats. Par la bande, je suis arrivée en centre d'hébergement, qui n'était pas nécessairement mon choix. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Ça fait maintenant 22 ans que je suis en centre d'hébergement. La clientèle a vraiment changé, mais c'était un tourisme d'aventure à mes yeux, mais à un niveau humain. Donc, des gens qui, par leur état de santé, viennent habiter en centre d'hébergement. On comprend qu'on ne va pas là par choix. C'est vraiment l'état de santé. Donc, on a des fois peut-être peu, pas d'attente. Et dans le fond, le rôle du service loisirs, c'est de dire, ben oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Qu'est-ce qu'on fait en attendant?
Et donc on focus sur tout le potentiel qui reste et on l'exploite au maximum. Donc, c'est un travail qui est extrêmement gratifiant. Que je fais encore avec passion.
Vous avez trouvé votre bonheur professionnel et personnel jusqu'à un certain point, j'imagine.
Oui, certainement, parce que le loisir est un peu l'essence dans la vie. On travaille, on dort, on mange, mais il y a l'élément loisir et là où est-ce qu'on va souvent s'épanouir, où est-ce qu'on va se développer, où est-ce qu'on va... Donc, oui. Aussi personnel.
Et puis vous, Annie, le loisir, c'est arrivé comment? Votre travail en tant qu'intervenante en loisir?
Oui. En fait, pour moi, ça a été toute une découverte. Hein? C'est la pandémie qui m'a emmenée au service des loisirs.
Alors, ça ne fait pas si longtemps.
C'est très récent. En fait, moi, comme vous l'avez dit, moi, j'ai fait ma carrière en formation, puis j'ai fait ma carrière auprès des jeunes en difficulté. Et là, je me retrouve en fin de carrière, et voilà qu'arrive la pandémie. Et j'ai pas eu le choix, hein. Vous savez que c'était un moment très difficile, et puis le CIUS, l'organisme pour lequel je travaille, nous travaillons, a délesté des gens. Donc, moi, j'ai été obligée de me retrouver à être de service dans les CHSLD. Alors, je vous dirais vraiment que j'avais peur. Je suis allée de reculons. Mm-hmm. Tout le monde avait peur d'attraper la COVID-19, vous vous souvenez?
Oui.
On se disait, mon Dieu, est-ce que je...
Il n'y avait pas de vaccin dans ce temps-là.
Il n'y avait pas de vaccin.
On ne connaissait rien du virus ou à peu près. Puis,
exactement.
On voyait des gens mourir autour de nous.
Exactement. Alors, écoutez, j'avais le choix puis je n'avais pas le choix.
Ouais.
Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, comme je dis, et je suis allée à une formation au service des loisirs. Et tout de suite après la formation, après 2-3 heures de formation, j'ai fait « Ah, je pense que j'ai quelque chose à faire à cet endroit-là ». Et c'est comme ça que j'ai appris que le service des loisirs existait dans le CIUS. Je ne savais même pas. Je ne connaissais pas ça du tout.
Mais pas grand monde, je pense qu'il sait.
Non.
À moins d'être en contact avec des gens qui travaillent dans le milieu.
Exactement. Alors, ben voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée, en fait, au Manoir de l'Âge d'Or, qui est un CHSLD pas très loin d'ici. Et je vous dirais que moi aussi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour qu'est-ce qui se passait dans ces milieux-là, même si c'était un moment tragique, là, on s'entend.
Bien oui,
et à chaque jour, on suivait les décès. On se disait, bon, est-ce qu'il va en avoir aujourd'hui? Oui, à chaque jour, il y en avait. Alors, c'était un moment très difficile, mais moi, tout à coup, j'ai été touchée parce que j'avais à faire ce qu'on appelle les appels aux familles. C'est un programme qui était porté là, par le service d'entrée. Et j'avais à faire des contacts de visioconférence avec les personnes âgées. Alors, vous pouvez vous imaginer le bonheur que j'apportais aux gens. juste de leur faire... De leur
comme
permettre,
une fée?
Oui, alors de leur permettre, vous comprenez, de leur permettre de parler à leurs proches. Parce qu'il n'y avait plus personne qui rentrait dans les CHSLD.
Non.
Alors, mais à la fin de mes journées, je dois vous dire que j'étais remplie d'émotions. Beaucoup d'émotions.
Ça devait être bouleversant, même s'il y avait des moments heureux.
J'étais bouleversée. Ouais. Puis je voyais tous ces gens qui étaient autour, qui travaillaient, qui étaient fatigués, qui étaient épuisés. On avait, vous vous souvenez, là, on avait des équipements
la
qui
visière,
étaient...
le costume,
c'était...
des
ah, c'était
ouais.
terrible
comme
pour
un
les...
peu des astronautes,
oui, puis c'était
des cosmonautes.
Exactement. Puis c'était difficile pour les personnes âgées de nous voir arriver dans leur
oui,
chambre
c'est
comme
sûr.
Ça. Mais on leur ouvrait une fenêtre. Comme je dis, on leur ouvrait une fenêtre de bonheur parce qu'on leur apportait des gens dans leur chambre, malgré tout. Et à la fin de la journée, moi, je rentrais chez moi bouleversée. Et je racontais les histoires à mon conjoint. Puis lui, il n'en revenait pas là, de ce que je lui racontais. Puis il était plein d'émotions. Moi, j'avais des émotions. Je me souviens d'être sortie d'une chambre d'une dame. Et là, je me suis effondrée. Je pleurais. Je me disais, mais pauvre personne, ça n'a pas de bon sens. Alors,
qu'est-ce qui avait
cas,
fait déborder le vase?
Bien, en tout cas, je me souviens là, d'une madame. Je l'ai appelée Madame Coquette. Là,
Oui, parce que toutes les histoires sont vraies dans ce récit-là. Seuls les noms ont été changés.
Exactement. Alors, ce sont toutes des histoires. Évidemment, je n'ai pas vécu toutes ces histoires. Moi, pendant le début là, de la pandémie, j'étais, comme on dit, au front. Je rencontrais ces personnes-là. Je vivais beaucoup d'émotions. Mais par la suite, André, elle pourra le raconter. Elle le raconte très bien. Par la suite, là, elle m'a demandé de remplir une autre mission. Mais ma première mission, c'était vraiment de rencontrer les personnes âgées, les personnes dans leur chambre, etc.
Alors, cette rencontre-là avec Madame Coquette.
Je rencontre Madame Coquette et puis, elle était toute belle, je me souviens encore, elle était bien coiffée, bien habillée, elle avait un beau collier de perles. Et là, elle me voit arriver comme un cadeau, là, moi, de la visite. Puis là, je lui dis, écoutez, c'est votre fille qui veut vous parler. Mais elle comprend pas, là, comment ma fille veut me parler. Fait que là, j'ouvre la tablette et puis là, sa fille commence à lui parler. Oui, maman, c'est moi, je suis là. Et là, elle me regarde, elle dit, c'est mon bébé. Mais là, c'est une grande fille, là, c'est une femme et tout ça. Puis là, elle me dit, oh, c'est mon bébé, je suis tellement contente. Puis là, ils ont une conversation qui est très touchante. Puis là, moi, j'essaie de rester en retrait. Je les laisse se parler toutes les deux. Puis après, je sais pas, 5-10 minutes, elle me regarde et elle me dit, viens, on va aller en bas, on va aller voir ma fille. Et là les yeux, là je viens les yeux pleins d'eau. Là, j'explique. Je dis, non, votre mère n'est pas en bas. Puis là, sa fille prend le relais. Non, maman, tu sais pas, tu te rappelles pas. Mais c'était une personne qui avait un petit peu des pertes de mémoire. Alors, en tout cas, on a fermé la conversation en disant, la semaine prochaine, on va refaire une autre rencontre comme ça.
Mais c'était tout un monde... étrangers pour la plupart des résidents là, de faire des rencontres via Zoom, en tout cas en visioconférence ou en vidéoconférence. Il fallait leur expliquer, j'imagine, avant de faire la chose.
Mais,
c'est pas parce qu'on a nécessairement des problèmes cognitifs qu'on comprend pas ce qui se passe.
Mais c'est certain que c'est pas une technologie que nos aînés ont utilisée.
Non, ils sont pas nés avec.
Clairement pas. Ouais. Et si on remet un petit peu dans le contexte, dans le fond, quand on a eu la date, le coup près a tombé, on ferme les portes aux familles, on ferme les portes aux bénévoles. Nous, pour un service loisir, c'est nos principaux... partenaire dans l'animation du milieu de vie. Et là, du jour au lendemain, on vient de couper ce contact-là. Donc, il fallait rapidement mettre en place un système de communication pour que les familles puissent avoir des contacts avec leurs proches, eux que certains visitent tous les jours, etc. Donc, oui, il y a eu... et comme on voit souvent les familles en présence, on n'a pas des listes de courriels. On ne communique pas via...
il fallait trouver les adresses, les coordonnées de ces personnes-là.
Exactement. Et si madame est hébergée et elle a 85 ans, on veut la mettre en lien avec son mari à la maison qui a 85 ans, bien, il faut l'aider à installer une application avec laquelle il n'est pas familier et le faire à distance.
De part et d'autre, c'était une mission, là. C'était un
clairement,
défi.
Clairement, parce qu'eux aussi, même à domicile, étaient un peu isolés, ne pouvaient pas avoir nécessairement de soutien. Donc, ça se faisait par téléphone, ça se faisait... Et dans le fond, l'équipe loisirs, on parle de 40 intervenants loisirs pour 2600 résidents. Donc, quand on parle des
familles...
C'est pas beaucoup.
Surtout en temps de pandémie.
Bien, clairement. Et c'est là où est-ce que, dans le fond, autant Annie, au niveau du délestage, c'était quelque chose qu'on lui poussait un petit peu dans la gorge. Pour nous, c'était... une bénédiction là, de pouvoir recevoir des gens pour nous prêter main forte. La même chose pour les gens de Je contribue. Donc, on a reçu, nous, à peu près 200 personnes qui sont venues porter main forte pour organiser toutes ces communications-là. Donc, on a vécu toutes sortes de belles anecdotes, dont une, par exemple, que je me rappelle, où est-ce que, dans le fond, on présente la tablette avec le proche du résident, puis quand le résident, le réflexe, c'est de dire aux gens qui sont autour, « Regarde, ma fille est à la télé. » Puis on dit, « Non, elle n'est pas à la télé, c'est une tablette, parlez-lui. » Voyons, prends-moi pas pour une folle, là, je ne parle pas avec une télé. » Et donc, c'est vraiment, il fallait tout s'approprier l'outil.
Ils sont devenus experts assez rapidement, hein, je pense.
Clairement, puis on s'est donné des outils. Donc, dire, ben, par exemple, c'était pas naturel de parler avec un écran. Donc, des intervenants, quand ça, ben, donne-lui un récepteur de téléphone, même s'il n'est pas fonctionnel, s'il est attaché à rien. Ça fait un réflexe, une référence connue. Donc, je parle dans le récepteur. Mais dans le fond, je parle vraiment avec la tablette. Puis que là, tranquillement, ils ont laissé de côté le récepteur. Mais c'était, en soi, c'était un moment épouvantable. Mais au travers de ça, dans le fond, c'est tout le lumineux qu'on a envie de faire ressortir ou de voir ou de retenir, en fait.
Est-ce que l'idée de créer un livre à partir de ces histoires-là qui se sont déroulées pendant la pandémie fait partie donc d'un objectif de montrer qu'il y avait du beau, si je peux dire, dans...
Bien, si je peux me lancer, dans le fond, tragédie. Je continuerai, Annie. Oui. Dans le fond, c'est un projet qui s'est placé comme un peu tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les communications vont bien, on a réussi à offrir quand même une offre de service qui va stimuler nos gens, qui sont assez isolés, qu'on ne peut plus rassembler, qu'on ne peut plus donner de matériel. Donc, on a réussi à offrir, et là, le travail commence à bien rouler. Et là, j'ai Annie qui me dit, « Bien là, André, j'aimerais bien ça faire peut-être autre chose. J'ai besoin de contribuer. J'ai besoin... Non, je vais contribuer. Mais moi, j'ai besoin de monde sur le terrain. J'ai besoin de présence auprès de nos aînés. Donc, je ne veux pas de travail, d'être plus administratif. Mm-hmm. J'essaie de trouver des avenues. » Puis là, Annie, on peut-tu se rencontrer? Puis là, elle vient me voir. Puis elle me raconte qu'elle écrit un journal, justement, pour se ventiler. Puis là, on est à peu près... On a terminé la deuxième vague. On est un petit peu éméché, tout le monde. Beaucoup de collègues de travail manquent. Et là, je sens mon équipe manquer d'énergie aussi. Puis là, j'entends Annie, puis j'ai comme une espèce d'éclair, d'étincelle. Je dis, mon Dieu, Annie, aurais-tu le goût de partir puis d'aller faire le tour de ma gang puis de les faire ventiler? Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il fallait être à l'intérieur des centres d'hébergement pour comprendre ce qui se vivait, l'intensité. Mm-hmm. On est habitué de C'est une réalité, on côtoie la mort, c'est une étape de vie à laquelle on est quand même familier, mais pas à cette intensité-là.
C'est une vitesse grand V.
C'est ingérable. Et donc là, je dis, bien, peut-être que... Puis on voulait raconter ça chez nous en revenant à la maison, c'est une réalité qui est comme hors norme.
Tu peux ventiler, mais ça devient intense pour l'entourage là,
exactement.
Au quotidien.
Tout à fait. Tout à fait. Et il y avait le reflet qu'on faisait dans les médias qui était quand même... Ça donnait le vertige, là. Et on vivait peut-être autre chose, nous autres, de l'intérieur. Et c'est ça. Aller faire le tour de mes intervenants, les faire ventiler, puis terminer, dire, on ramasse l'histoire que tu vas te rappeler quand tu vas être grande, quand tu vas être sage, l'histoire que tu vas te rappeler qui est belle, que tu as été contente d'être là, contente. Puis Annie, elle a accepté.
Annie qui a les larmes aux yeux.
Ah oui, moi aussi. Bien, comme je dis toujours, c'est un cadeau là, oui. Pour moi. Parce que, au fond, de rencontrer ces gens-là, c'était une grande découverte. C'était un grand plaisir. Puis je sentais à la fois que j'avais une utilité. Tu sais, on se disait pendant la pandémie, mais qu'est-ce que je peux faire? Et comme André le disait, moi, j'avais commencé à écrire plus pour vider mon trop-plein d'émotions, mais quand elle me dit... Aurais-tu le goût d'aller rencontrer mon personnel? Mais moi, c'était une joie incroyable. Là. Je vais rencontrer mes nouveaux collègues, puis je vais les écouter. Puis je pense que c'était ça la première chose. Il y avait tellement besoin de parler. Parce qu'il me disait, je peux pas raconter à ma famille qu'est-ce que je vis dans ma journée. Ils peuvent pas comprendre qu'est-ce que je vis. Alors moi, j'écoutais. Bon, évidemment, j'ai une formation comme criminologue. Mm-hmm. Je suis habituée d'écouter. Alors ça allait bien, cette partie-là.
Mais vous êtes devenue en quelque sorte journaliste aussi. Vous écoutiez, mais vous posiez des questions.
Ah oui, je posais des questions. Je faisais des entrevues. Et puis, j'enregistrais tout ça. Puis après, je rentrais à la maison, je me décompressais parce que c'était beaucoup d'émotions. Là. Je dirais, dans la majorité des cas, les intervenants loisirs pleuraient pendant l'entrevue. Ça, c'était normal pour eux. Puis moi, j'accueillais ça, puis je trouvais ça normal qu'on fasse place à ces émotions-là. Donc, son premier objectif était super, bien atteint. Puis après ça, je leur disais justement, OK, tu as vécu des choses difficiles. Tu sais, je me souviens d'une jeune intervenante qui disait, regarde, moi, j'en peux plus. Là, tous les jours, je vois les gens mourir. Je suis plus capable. Je suis rendue à bout. Fait que là, je l'écoutais. Puis après, je lui disais, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu as senti que tu étais vraiment utile?
Il y a eu un contact.
Il y a
aussi.
Eu un vrai contact. Tu as vraiment fait une différence pour mm-hmm. l'autre. Et là, ça partait. Il y avait toujours plus qu'une histoire. C'est pour ça qu'à la fin, il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a presque une trentaine de récits. Ce sont des récits très courts, mais c'est 30 récits qui m'ont été racontés. Et puis là, c'est ça. Après, je réécoutais la bande le lendemain ou en fin de journée. Puis là, je me mettais à écrire. Puis ça me dépassait, là, je vais vous dire. Là, ça me dépassait. Il y avait tellement des belles histoires.
Pff, est-ce incroyable. Qu'il y en a eu plus que 30? Parce que je me demandais si vous aviez eu un choix à faire.
Oui, j'ai fait des choix. Oui, oui.
Ça ne devait pas être facile. Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Ou...
Je ne sais pas si je vais me replonger dans ce type d'écriture, mais c'était difficile. Hein?
Ouais.
Je dois vous le dire, c'était difficile parce que je vivais tellement d'émotions parce que c'était la réalité. Là. On la voyait, cette réalité-là. Je la vivais avec eux. Je l'avais vécu, moi aussi, cette réalité.
Mais le livre est bien fait. Il est, oui, touchant, bouleversant, puis on se dit, est-ce qu'on a le goût de replonger là-dedans? Mais il y a différentes parties. Ça commence avec jour de fête et ça finit avec fin de vie. Vous avez voulu équilibrer, on dirait...
Oui, absolument, parce que c'est un choix là, qu'on a fait. Je me disais, ça a déjà été assez difficile, cette période-là. Est-ce qu'on peut en retirer du positif? De toute façon, André avait cette idée-là dès le départ. Elle me disait, Annie, tu vas aller à la recherche des perles,
oui.
Des petites perles de bonheur.
Alors, sans être avec des lunettes roses, là,
non,
à chaque
non,
fois.
Non, ouais. La réalité, elle est là. Moi, je voulais pas, il n'était pas question que je cache la réalité. Là. La réalité, on la connaît. Elle est là, elle est en arrière-fond. Mais dans cette réalité difficile, on a des gens de cœur. C'est ça qu'il faut dire. Des intervenants loisirs qui ont le cœur sur la main. Ce sont des passionnés. Alors, eux, ils faisaient tout pour apporter du bonheur à ces personnes-là,
oui.
Même dans les moments de fin de vie. Alors, même quand on lit la dernière partie qu'on a gardée pour la fin, qui est quand même un peu plus difficile, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la fin de vie. Mais les intervenants loisirs, oui, sont à l'aise avec une fin de vie.
Parce
c'est juste qu'ils
sont habitués.
Sont habitués. Mais là, ils avaient à en faire plus parce que là, tout le monde était débordé. Alors, des fois, c'était même le médecin du CHSLD qui disait à l'intervenant loisir, bon, tu peux-tu aller t'occuper de Mme Brassard, par exemple, parce que là, elle est en fin de vie, puis elle est seule. Alors, eux, ils se substituaient aux enfants, là, ils se substituaient à la famille. Parfois, ils le faisaient même avec une tablette, ils pouvaient le faire en visioconférence. Alors, il y a certaines histoires, c'est ça qui se passe. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire là, du papa qui est décédé, puis la jeune femme, elle était en France, puis elle faisait tout pour rentrer en contact avec son père. Bien, le jeune intervenant,
ah
là,
oui.
Alors lui, là, il a tout fait pour mettre en contact cette jeune femme avec son père. Vous imaginez comment c'est important dans le processus de deuil pour cette jeune femme-là qui est à l'étranger. C'est des histoires fabuleuses.
Oui, des gens qui sont finalement des anges. Et je me demandais si vous trouviez que les intervenants en loisirs sont appréciés à leur juste valeur parce qu'on les découvre beaucoup aussi à travers le livre. On se dit, vous faites un travail extraordinaire. Vous êtes des psychologues, vous êtes des grands humains. Et est-ce que... Il me semble qu'on n'a pas parlé beaucoup de vous pendant la pandémie.
Mais ça a été quelque chose qui était très variable d'un établissement à l'autre. Moi, j'ai le privilège d'être dans une organisation qui reconnaît la nécessité. Parce que là, on parle de loisirs, c'est pas d'occuper le temps simplement. On va vraiment stimuler la clientèle. Mm-hmm. On va essayer de garder actif et en bonne santé tout ce qui est encore fonctionnel. Donc, se rappeler des bons souvenirs, écouter de la musique qui nous fait du bonheur, etc. Donc, moi, à l'intérieur de l'organisation dans laquelle je travaille, il y a cette reconnaissance-là. Puis peut-être que, dans le fond, le
Mais je parlais aussi de la société en général, la famille, des résidents. Bon, il y a des familles qui sont là pour, les aînés, mais il y en a d'autres qui sont complètement absentes.
Tout à fait.
Je me demandais si elles étaient conscientes du beau travail que les intervenants et intervenantes en loisirs
faisaient. Je pense que oui. Les gens qui vivent avec, soit qui sont présents, puis des fois on dit, comment ça se fait que la famille n'est pas présente? Des fois, ça peut être très confrontant aussi. On ne reconnaît plus notre parent au moment.
Je disais ça sans jugement.
Non, c'est ça. Ouais. Mais dans le fond, ces gens-là savent ce qui se fait à l'intérieur. Moi, je pense que tous les gens qui ont été délestés, les gens qui sont venus de « Je contribue », les héros de la... tous ces gens-là, on a eu un regard qui était comme « Je pensais pas que ça existait ». Fait que ça, pour les intervenants en loisirs, je pense que ça a été une belle nourriture qui était stimulante de dire comme « Wow ». Mais c'est ça. D'ailleurs, on travaille, nous autres, avec proches les familles. Beaucoup, on a peut-être 1100 bénévoles. Avec la pandémie, on les a perdus. Et c'est sûr que 2 ans plus tard, les gens ne sont pas au rendez-vous. Donc, il faut rebâtir nos équipes. Donc, j'espère que les gens je contribue, etc., vont continuer à éparpiller la bonne nouvelle, puis parce qu'on va faire des campagnes là, vraiment pour recruter des bénévoles, pour venir nous donner un coup de main.
Et c'est une belle façon. Si on veut se procurer le livre, on fait quoi?
Dans le fond, ça, peut-être juste faire une petite parenthèse. Dans le fond, l'objectif ultime, moi, je pensais, au bout des histoires, là, de faire des photocopies pour mon équipe et les boudiner et les transmettre. La Fondation Santé urbaine de notre organisation est tombée là-dessus, puis c'est, mon Dieu, c'est tellement touchant, on veut aller plus loin avec ça, et c'est eux qui ont rendu le petit recueil possible.
Illustré, joliment.
Excellent.
Donc, c'est par Geneviève Guénette, qui a beaucoup de talent.
Il faut le souligner. Et tous les fonds tirés de la vente de ce recueil vont servir à l'amélioration des milieux de vie dans les CHSLD des secteurs Jeanne-Mance et Sud-Ouest Verdun, du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal, c'est ce que je suis en train de lire sur le joli signet. Alors, pour se le procurer...
Simplement sur leur site directement, il est possible de le commander.
Fondation...
Santé urbaine.
Oui. Mais j'aurais encore plein de questions, mais l'émission tire à sa fin. Merci beaucoup d'être passé en studio. André Méthode, responsable du service des loisirs pour 17 CHSLD du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Et puis Annie Tremblay, nouvelle intervenante en loisirs qui a fait beaucoup, qui a finalement rassemblé toutes ces histoires de vie et puis qui les a mis dans ce beau livre. Annie Tremblay, merci. Puis bravo à vous deux.
Ouais, merci.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.